L'évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35 pour notre méditation de ce jour. Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35, la parabole du serviteur qui refuse de pardonner. Au nom de Jésus. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il ne cesse pas de pécher contre moi? Jusqu'à 7 fois ?»« Non, lui dit, répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est pourquoi voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il venait de se mettre à compter quand on lui emmena un qui lui devait des millions de francs. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Son maître ordonna alors de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme et ses enfants et tout ce qu'il possédait afin de rembourser sa dette. Le serviteur tomba à genoux devant son maître pour le supplier. « Prends patience envers moi, lui dit-il, et je te paierai tout. » Le maître en eut pitié. Il lui remet sa dette et le laissa partir. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 francs. Il le saisit de la gorge et le serrait à l'étouffer en disant « Paie ce que tu me dois ». Alors son compagnon tomba à ses pieds et le supplia en ces termes « Prends patience envers moi, je te paierai ». Mais lui, il ne voulut pas. Il le fit au contraire jeter en prison, en attendant qu'il ait payé sa dette. Et quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils en furent profondément tristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors le maître fit venir ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'ai remis toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. » Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi. » Et le maître était très en colère et l'envoya le serviteur en prison pour y être puni en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Et Jésus ajouta, « C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. » Amen. Ah, quel beau texte, non? Ah oui, j'ai eu ce sentiment-là, j'ai soupiré. J'ai dit, c'est dur quand même ce que tu nous demandes, Seigneur. C'est inhumain. Ce texte, je le trouve beau parce que je le compare à moi-même à un piment dans tous ses états. Vous savez, le piment, là, qu'on mange. Moi, j'aime bien les piments. L'odeur qui enivre notre odorat et le goût qui divise les gens, soit ceux qui vont sauter au plafond à cause du piment, car le piment est trop fort, pour ceux qui ne le supportent pas, soit tu es comme moi qui aime tellement le piment, plus ça pique, plus c'est bon. Pour vous dire que ce texte est l'un des textes les plus détestés de ceux qui lisent la Bible. Je vous dis, beaucoup disent, ah non, 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 ça ne va pas. Ça ne va pas. Certains le déchirent même de sa page. Et avec l'expression être chrétien, c'est un crétin trop bon, trop con. Quelque part, ils ont raison, ces gens-là. Il faut l'avouer. Soyons honnêtes. Quelle folie de vouloir pardonner quelqu'un qui nous a fait du tort 70 fois x7. C'est une folie, une aberration. Je vois un peu la tête de Pierre quand il a entendu Jésus. Non, 70 fois 7. Oh, déjà pour lui, 7 fois, c'est beaucoup. Hein. Je ne sais pas pour vous combien de fois vous avez pu pardonner. 7 fois, c'est déjà beaucoup. Quand même. Lui, il a fait 7 fois. Et cette façon de voir les choses est normale si on considère le pardon comme étant une exigence morale à remplir. Oui, c'est difficile si le pardon pour nous est une exigence morale ou quelque chose à atteindre Mais nous allons voir dans la suite que ce n'est pas du tout cela. Jésus n'est pas en train de faire une leçon de morale. Vous allez voir que le pardon est plutôt libérateur. Ce qui pose un problème à Pierre ici, ce n'est pas le fait de pardonner. Là, il dit, oui, je suis d'accord avec toi, il faut pardonner. Mais son problème à lui, il dit, pourquoi ça doit être illimité? C'est là le problème. Lui, il pose des conditions, oui, je pardonne, si. Mais Jésus dit, tu pardonnes, point. Alors, il vient à Jésus pour savoir où se situe cette limite du pardon. Et Pierre a posé une question très difficile à répondre. Je vous dis, c'est très difficile. Et je suis sûr que si nous avons reçu ce genre de questions, à la place de Jésus, on se pataugerait dans des explications bancales. Alors, face à cette question très délicate, là, on voit la sagesse de Jésus. Au lieu de donner des leçons, voilà ce qui est dit dans la loi, dans Jésus n'est pas parti dans toutes ces explications délirantes. Jésus lui a répondu avec une parabole très basique, très simple, mais qui contient la réponse à la question que Pierre avait posée. Alors, il raconta une histoire créée de toutes pièces, mais qui s'inspire de la vie réelle. Il fut un maître qui avait ordonné à ses serviteurs de mettre en prison la personne endettée, ainsi que toute sa famille. C'était une façon de faire à l'époque. Il faut se mettre dans l'époque où, quand tu avais des dettes, il fallait payer, et si tu ne payais pas, donc on essaie d'évaluer toi et tes enfants et ta femme, tu deviens esclave. Donc voilà la situation. Vu que toute la famille a failli être jetée en prison, c'est que la dette était si énorme, et là où Jésus mettait le doigt, était la situation sans issue du père de famille. Il n'y avait plus de solution. Même s'il va vendre tous les membres de sa famille, la somme réunie ne pourra pas rembourser sa dette. Alors le père de famille voulait négocier auprès de son maître de lui accorder un délai, comme si le délai allait résoudre le problème. Et dans ce genre de situation, souvent, même s'il n'est pas dit dans le texte, si tu demandes un délai pour payer ta dette, c'est pour, afin de rembourser, tu vas encore emprunter. Donc tu vas être surendetté. En d'autres termes, il est coincé dans un cercle vicieux qui n'en finira jamais, jamais jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, c'est pour cette raison que le maître a pris la décision, non pas par gentillesse, mais par logique. Parce qu'il voit, c'est un businessman, il sait bien comment on peut rendre l'argent. C'est vrai qu'il est écrit qu'il avait compassion en voyant le serviteur lui supplier à donner un délai, mais en tant qu'un homme d'affaires, il savait pertinemment que ce serviteur n'est plus solvable. Quel que soit ce qu'il va faire, il ne pourra jamais payer. Et donc, la dernière solution, laisser la dette, effacer la dette. Et d'ailleurs, le terme grec qui exprime le pardon ici, laisser aller. Voilà ce que ça veut dire, pardonner, laisser aller. À travers cette parabole, Jésus nous montre que comme la dette, nous ne pourrons jamais nous débarrasser du péché. Le péché, c'est comme une dette que nous ne pourrons jamais payer. Quelles que soient les bonnes œuvres, quelles que soient les choses que tu vas faire, tu ne pourras jamais payer la moitié. Un fils d'un esclave restera toujours un esclave, tant que ses parents ne seront jamais affranchis. Ils n'ont rien à voir avec la dette de leurs parents, mais ils subissent le même traitement. Et donc l'acte du maître ici, qui pardonne son esclave, n'est pas du tout une forme de gentillesse, comme je l'ai dit, mais c'est une nécessité. Si le maître n'a pas accordé cette remise des dettes, leur survie en dépend. Bref, le pardon n'est nullement une conduite morale, mais une nécessité de vie. Ce n'est pas pour rien que les grandes nations disent « On efface la dette de l'Afrique !» Ce n'est pas pour nos beaux yeux. C'est une logique afin qu'ils puissent encore vous demander « Redemandez-nous !» C'est un calcul qui est fait. Et malheureusement, celui qui a gracié ne l'avait pas compris. Il n'avait pas compris cet acte en sortant de chez son maître, tout fier, lorsqu'il voyait son collègue, « Paie-moi mes 100 francs. » Vous imaginez, 100 francs et des millions. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait lui rendre le mal pour le mal. Et la réaction du maître ne faisait pas attendre, bien sûr, en le faisant amener de force, en criant sur lui, « Mauvais serviteur !» Vous savez ce que ça veut dire, ce terme? En français, c'est différent. Je vois qu'on a vraiment changé le sens en grec. Mais si on regarde le texte grec, le sens de « mauvais » ici peut avoir deux sens. Le premier sens, « mauvais » comme « méchant », bien sûr, ça on le connaît. Mais il est aussi « malheureux serviteur ». Et c'est ce qui explique le cercle vicieux. Tellement cet homme, il était habitué au malheur, il fut malheureux avec sa dette au-dessus de sa tête, qu'il ne voyait plus que son collègue était aussi dans la même galère que lui. Vous savez, quand on est trop malheureux, on ne voit pas aussi le malheur des autres. On ne voit que nous-mêmes. Et un malheureux procure aussi du mal aux autres. Plus tu es mal, plus tu fais du mal aux autres. Plus tu te sens bien, plus tu fais du bien aux autres. Donc, pour évaluer votre situation, si vous faites du mal aux gens, c'est que vous êtes dans une situation difficile. Et la prière du Notre Père va dans ce sens. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous avons toujours mal compris cette prière, comme si Dieu donnait une condition. Si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Ce n'est pas ça le sens. Mais le sens, c'est que si tu as compris le pardon que tu as reçu, tu trouveras la force de pardonner. Et c'est ça le problème. Le pardon est une grâce. Le pardon est sans condition. Et donc, ce que Jésus nous enseigne dans cette prière, c'est que celui qui a vraiment, je dis bien réellement reçu le pardon, comme le maître a fait ici dans cette parabole, il pardonne les autres, non pas parce que c'est vertueux, mais parce que cet acte est une façon de casser la chaîne de malédiction du cercle vicieux. C'est la logique. Tant que cette chaîne de malédiction n'est pas cassée, nous ferons du mal autour de nous. Et comment casser la chaîne de malédiction de cette emprise? C'est le pardon. C'est le pardon qui casse la chaîne. Et la malédiction n'est plus là. Il suffit de regarder dans les histoires des familles. Regardez, il ne faut pas regarder loin. Jésus nous donne un exemple dans la relation entre frères, entre collègues. Regardez les problèmes de famille aujourd'hui. Des générations en générations, ils ne se sont pas pardonnés dans des familles à cause d'un problème entre parents avant. Et les parents qui se disent, ne dis jamais bonjour aux descendants de cet homme ou de cette femme. Et cette chaîne de malédiction continue chez les enfants, les petits-enfants, les tout-petits-enfants. Et ça pourrit la vie des enfants. Donc s'il y a un qui ose casser la chaîne, il se peut qu'il va recevoir des coups des grands-parents ou des patriarches ou des matriarches, mais cette personne-là va rendre service à toute la famille. Vous avez vu, quand il y a une personne qui a cassé la chaîne, quelle joie! Quand tu vois les larmes des familles qui se retrouvent, enfin on ne sait plus dire bonjour, mais on avait honte de venir vers toi parce qu'on nous a dit que vous êtes des familles pas à fréquenter. Vous voyez la malédiction. La malédiction, ce n'est pas Dieu qui maudit, c'est nous-mêmes qui créons la malédiction. Et j'ai bien aimé l'explication du pasteur James Wood de l'église du Louvre de Paris. Il a pris comme traduction le mauvais serviteur et si malheureux serviteur. Finalement, c'est un malheureux celui-là. C'est un malheureux. C'est un serviteur en mauvais état. Voilà ce qu'il a dit. Il était tellement en mauvais état. Il était vraiment dans un sale état qu'il répand du mal autour de lui. Les personnes qui font du mal dans la société, vous savez, sont des personnes qui ont souvent une situation compliquée. Aujourd'hui, on discute dans les gouvernements comment faire pour réduire le nombre des prisonniers dans les prisons de terrorisme et tout. Parce qu'il y a un mal dans ces gens-là. Je fais partie de l'aumônerie protestante aujourd'hui. Je travaille dans le milieu hospitalier et aussi dans les milieux pénitentiaires. Mais quand tu vois le mal de ces gens en eux, c'est des gens détruits. Et dès qu'ils sortent de prison, ils vont détruire des vies. Parce qu'ils sont détruits. Ça ne sert à rien de réduire les peines ou de faire des conditions, les libertés provisoires. Ce n'est que des pansements. On vient d'entendre aux nouvelles un gars qui vient de sortir l'après-midi, il fait une connerie. Voilà. Ils sont mal. Et c'est ce que le gars ici a vécu. Et sans faire exprès, ils répondent le mal. Ils ne font pas exprès. Nous qui regardons de l'extérieur, on dit, mais celui-là, c'est un mauvais type. Oui, c'est un malheureux. Et donc, si nous aussi, nous répondons le mal que nous subissons par un autre mal en plus, imaginez dans quel genre de monde nous allons vivre. Aujourd'hui, on dit, on est pollué dans le climat, mais aussi on est pollué dans la relation humaine. On suffoque de haine et de violence dans ce monde. Nous vivons dans un monde qui est asphyxié de méchanceté gratuite. Certes, nous n'allons pas changer le monde. C'est impossible. Mais la présence des enfants de Dieu dans la société devrait apporter une bouffée d'oxygène. Au moins une petite bouffée d'oxygène, là où tu vis. Et là entre en jeu l'aspect de la nécessité de pardonner sans limite. Sinon, le monde où nous vivons serait invivable pour nos enfants prochainement. Pardonner, rappelons-le, c'est casser la chaîne de malédiction. Donc, ce n'est pas un poids, c'est une question de survie. Si tu veux survivre dans ce monde méchant, pardonne. Sinon, tu vas être bouffé. Tu vas être détruit. Il n'est pas question d'accepter de se faire piétiner, ce n'est pas cela. Mais de préserver dans le pardon jusqu'à ce qu'on puisse trouver une faille pour casser cette chaîne de malédiction. Vous avez entendu tout à l'heure la lecture dans le Proverbe qui le parle. Et donc si nous revenons à notre texte de ce matin, finalement le serviteur qui n'a pas su pardonner son collègue, ce n'est pas à cause de la taille de la somme, ce n'est pas la somme du préjudice qu'il a subi, que son collègue lui doit, parce que ce n'était que 100 francs, vous voyez. Mais tout compte fait, ce serviteur, entre guillemets, dit impitoyable, n'avait pas du tout accepté finalement. On voit qu'il n'a pas assimilé le pardon qu'il a repris de son maître. Il ne croyait pas qu'il était pardonné. C'est pour ça. Regardez bien la logique. Il se comportait comme quelqu'un qui doit encore tout réunir toute la somme afin de payer sa dette. Donc la première chose qu'il fait, je dois rassembler mes 100 francs quelque part. Donc c'est quelqu'un qui ne croit pas à son propre pardon. Comme s'il a toujours une dette sur sa tête. Et je pense que cette parabole nous donne une vérité assez déstabilisante dans notre vie. Comme ce serviteur impitoyable, celui et celle qui n'arrive pas à pardonner, c'est quelqu'un qui n'a pas accepté son pardon. Tu dois d'abord te remettre en question. Peut-être quelque part dans ta vie, tu ne t'es pas pardonné de ton passé. Peut-être certaines casseroles de ta vie, le diable essaie de te le rappeler. C'est ça le pire. Le diable veut dire accusateur. Il t'accuse, il te reprend. Or le Christ a dit, j'ai tout payé. Et toi, tu ne crois pas. Oui, mais c'est énorme ce que j'avais fait. Oui, mais j'ai tout payé. C'est ça le mystère de la croix. Voilà, c'est ça le problème. Nous pensons tous à l'unanimité qu'il n'est pas facile de pardonner, certes. Mais il y a encore une autre réalité plus difficile, chers amis. Croire que nous sommes pardonnés de Dieu, c'est difficile d'accepter. Souvent, je reçois des messages, des textos qui disent « Qu'est-ce qui me rassure que je suis pardonné, pasteur ?» Je réponds toujours à ces gens-là, regarde la croix et tu auras la réponse. Je n'ai pas de garantie à te donner, tout est là. Quel était le dernier mot de Jésus à la croix? Tout est accompli. Et toi, tu vas encore reprendre tout ça. Comme si tu disais à Jésus, ton sang ne vaut rien. C'est ça, hein? Et aussi dans le domaine de la psychologie, vous savez très bien que cette vérité se vérifie chez les personnes qui ont des problèmes relationnels avec son entourage. Il entend que Dieu pardonne le péché du monde, des autres, mais pas les siennes. Et lorsque quelqu'un n'est pas en paix avec son Dieu, les autres disent avec soi-même, je n'aime pas trop ce terme, mais avec Dieu, alors lui aussi, il ne sera jamais en paix avec les autres. Alors cette situation se transparaît dans notre relation avec les autres. Donc, pour clôturer ma méditation, on peut dire alors que la façon dont nous nous comportions avec les autres est une sorte de thermomètre de notre relation avec le Père. Si ma relation avec l'horizontale a un problème, c'est que j'ai un problème avec le Créateur. Alors, si tu veux régler l'horizontale, règle d'abord le vertical. C'est pour ça qu'on vient au culte, pour régler certaines choses avec Dieu, pour se mettre sur les rails. Et une fois que tu repars chez toi, là où tu travailles, où tu évolues, tu auras la force de te remettre sur la bonne route. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.